Attendez, parce qu'il faut juste que je gère un...
Putain, c'est classe.
La semaine prochaine, si tu veux.
Voilà.
Ouais,
bien sûr.
On n'était pas assez de ça, donc on
va... Ouais, c'est ça. Bon, et moi... Ok, donc là ça pivote, donc ça sera plus agréable pour la...
Alors tout le monde est installé.
Comme intervenant, en théorie, on voit sa tête.
Ok. Ok, donc je fais juste ça et après on passe à l'autre slide, d'accord ? Ok, nickel. Donc on revient là-dessus.
Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Vous êtes tous prêts ? Notre interlocuteur en ligne est prêt ? Bon, rebonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas eu la chance de saluer ce matin. Donc là, nous intervenons sur une table ronde un petit peu spécifique et on se tourne un petit peu vers l'avenir parce qu'on va parler d'IA ou d'intelligence artificielle. Donc je vais me présenter brièvement, on m'a présenté brièvement tout à l'heure, mais je fais d'autres choses que ça sur la commune, sur la belle commune de Palaiseau, parce que j'ai une directrice générale des services qui me fait énormément bosser. Elle est dans la salle, alors... Donc, Franck Delbossio, donc je suis chargé de mission numérique. J'ai donc mis en place, comme on l'a montré tout à l'heure, les points d'accueil numériques. Et là, je fais partie du groupe de travail intelligence artificielle au sein de la commune de Palaiseau. Et je suis intervenu énormément aussi avec l'AGLO, donc avec notre ami Hugues et puis Stéphanie tout à l'heure Morland, donc sur la feuille de route, la feuille de route sur le FNE, donc la feuille nationale, France Numérique Ensemble, pardon. Là, nous allons parler d'avenir. Donc, comme je vous disais, on va parler d'intelligence artificielle. Et là, nous avons donc un certain nombre d'interlocuteurs qui sont là, intervenants qui sont là à côté de moi. Le premier que je vais présenter, c'est donc Gabriel Hertley, qui est du CNUM, qui va se présenter plus, tout de suite quand je lui passerai la parole et il vous présentera un peu c'est quoi le CNUM et ce qu'il fait. Ensuite, nous aurons donc Gilles Genvi, qui lui travaille à l'INRIA, mais fait d'autres choses que l'INRIA, parce que je crois qu'il est aussi professeur à Polytechnique. Et nous avons donc en ligne, je pense qu'il est là. Ah, qui est malheureusement... Bon, on va attendre qu'il se reconnecte. C'est donc Damien Wasserman, qui est lui donc aussi sur à l'Institut d'Ataya Paris-Saclay et directeur de la recherche MIND au centre INRIA de Paris-Saclay. Ah, ça, il est connecté, Damien, il nous entend ?
Oui.
Voilà. Désolé. Bonjour Damien.
De la connexion.
Voilà. Donc je vous présentais, mais vous vous présenterez un petit plus que je vous passerai la parole. Vous présentez un petit peu plus tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Okay. Alors je passe la parole à Gabriel pour que présenter un petit peu vos activités, et puis qui vous êtes et puis qu'est-ce que vous faites.
Bonjour à toutes et tous. Alors déjà merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Donc on est aujourd'hui rassemblés pour un café IA. C'est une démarche qu'on porte au sein du Conseil national du numérique. Donc très rapidement, le Conseil national du numérique, on est une commission consultative indépendante qui porte un regard interdisciplinaire et axé sciences humaines, sciences sociales sur les impacts du numérique sur notre quotidien. Donc Café IA s'inscrit dans un message que l'on porte depuis de nombreuses années au sein du Conseil, à savoir la diffusion d'une culture numérique partagée et à travers un fil rouge qui est la mise en débat des technologies et de l'intelligence artificielle qu'on a pu mettre en pratique depuis 2-3 années avec une démarche qu'on a nommée itinéraire numérique où on est parti à partout en France sur une centaine de déplacements à la rencontre des Français pour recueillir leur pensée sur le numérique et un peu voir comment créer les conditions de l'ouverture du débat sur le numérique et donc sur l'IA. C'est cette volonté d'ouverture du débat et d'ouverture aussi des conditions d'appropriation collective de ces technologies qui ont été retenues par la commission IA dans leurs premières recommandations, dont notre président Gilles Babinet, co-président, faisait partie, était membre, et qui à la suite a mené au fait que le président de la République charge le Conseil de structurer une démarche d'appropriation collective des enjeux numériques et IA sur l'ensemble du territoire français. Donc alors, rapidement, Café IA, c'est quoi ? C'est une démarche qui vise à favoriser notre compréhension et nous donner des clés de compréhension de ce que c'est l'IA, de comment aujourd'hui on est jeté dans le bain du numérique et de l'IA et comment un peu on reprend notre souffle. Aujourd'hui, l'IA est beaucoup vecteur d'angoisse. On a beaucoup parlé dans la table ronde d'avant des problématiques de recherche d'emploi. Donc nous, on vise vraiment à apaiser le débat et à donner des clés de compréhension pour que chacun puisse faire son choix d'utilisation ou non de l'IA. Donc à Café IA, en trois objectifs de Café IA, donc participer à la création d'espaces d'échange et de débat comme on est en train de faire aujourd'hui pour se donner des clés de compréhension pour mieux comprendre de quoi on parle. Deuxièmement, fédérer et soutenir les acteurs qui partout en France déjà mettent en place des espaces de formation et d'animation autour de ce sujet. Et troisièmement, arriver à trouver des portes de sortie pour, au niveau individuel comme collectif, arriver à améliorer notre quotidien avec ces technologies. Donc ça peut être mettre en place des espaces de dialogue social technologique au sein de son entreprise, écrire des chartes d'utilisation de l'IA au sein d'un établissement, d'une association, d'un établissement scolaire. Donc en gros, nous, on n'est pas là pour dire l'IA, c'est bien ou c'est pas bien, mais on est là pour que chacun puisse mieux comprendre comment ça marche et ce qu'on veut utiliser ou pas à terme avec cette technologie. On ne veut pas construire cette démarche de manière individuelle et descendante. On travaille collectivement avec beaucoup d'acteurs, la NCT, la MedNum, Réseau Canopée, la DNE, tout ça. Et on vise vraiment à ce que Café IA soit quelque chose d'ouvert, pas un format unique, pas un format descendant, que chacun puisse participer à créer la démarche, mais aussi à l'animer. Donc pour ça, nous, on partage des ressources de formation d'abord, donc qui peuvent déjà exister partout, des MOOC, des formations qui sont disponibles gratuitement, qu'on recense. On produit également nos formations, on a des modules pédagogiques qu'on construit. On a sur notre site internet caféia.org, il y a déjà un module de pédagogique qui s'appelle Qu'est-ce que l'IA, qu'on a construit avec avec l'INRIA. Et là, on va bientôt sortir un module IA et travail qui sera suivi d'un autre module IA et éducation, IA et administration pour un peu couvrir des champs assez larges. On a aussi des ressources d'animation parce que c'est une chose de maîtriser le sujet, c'en est une autre de savoir animer un temps d'échange sur ces questions. Donc pareil, on a une galerie d'animation qu'on met à disposition de format plutôt ludique, format plutôt prompt battle, format pédagogique. Et on partage des kits d'animation également dans ce sens-là. On va partager cet après-midi un kit pour organiser son Café IA en 4 étapes. Et ça va venir dans les semaines qui arrivent. Aussi, on va mettre en place une galerie d'animateurs. Donc si on est à Grenoble, on peut se rendre sur le site Café IA et voir des animateurs qui sont disponibles dans mon département pour les faire venir ou pour, si nous-mêmes on est animateurs, se mettre sur cet espace pour que chacun puisse piocher ce dont il a besoin. Donc je vois que l'heure tourne et qu'on est déjà un peu en retard, donc je vais on a déjà organisé une centaine de Café IA, on a recensé l'organisation d'une centaine de Café IA. Chaque jeudi on a des temps d'échange entre midi et deux où des animateurs viennent faire leur retour d'expérience. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la démarche, à venir et participer, poser vos questions si vous voulez organiser un temps d'échange. Et voilà, je remercie encore Franck pour l'animation de ce débat et Gilles-Jeanne d'être ici. Le but, c'est que chacun puisse participer. Donc si vous avez des questions, préparez-les dès maintenant et on passera avec un micro pour que chacun puisse, ou avec la catchbox, pour que chacun puisse participer. On ne veut pas du tout que ce soit descendant. Là, c'est un peu... C'est un peu le cas, mais promis, on va faire ça de manière contributive. Merci beaucoup et je passe la parole à Gilles-Jeanne.
Bonjour, je vais essayer de dire beaucoup de choses en peu de mots. Alors, je suis chargé de recherche à INRIA Saclay qui a 5 minutes. Donc, je bosse sur l'intelligence artificielle et ses apports à l'éducation pour la personnalisation des apprentissages. Et à ce titre, j'ai travaillé sur la certification PIX Donc je trouvais ça intéressant de travailler sur un projet qui était une sorte de start-up au sein de l'État pour développer du code libre pour certifier les compétences numériques des citoyens français. Je suis enseignant à l'École Polytechnique où je les forme aux compétitions internationales de programmation. Et en fait, donc, ma découverte de la programmation, c'était au départ dans des milieux associatifs, donc via des associations d'étudiants. Donc il y a une telle association qui s'appelle Prologin qui organise un tel concours depuis 1992, vous voyez, où ils entraînent à faire découvrir l'algorithmique aux jeunes. Et il y a 10 ans, en fait, on avait, enfin même 12 ans, on avait eu un prix de Google pour cette initiative. Ils nous avaient demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait plus de filles qui s'intéressent à l'informatique. Donc on a réfléchi un certain temps et on a décidé d'organiser des stages de programmation pour filles seulement. Donc en fait, même l'idée, elle faisait pas l'unanimité au sein de l'asso au début, y compris au sein des filles, étant perçue comme une forme de discrimination positive. Mais maintenant, ces stages, ils ont lieu un peu dans toute la France pour faire découvrir ça des week-ends. Et ce week-end-là, donc là, on fête les 10 ans, il y a un tel stage à l'École Polytechnique qui s'adresse où il y a une cinquantaine de participantes qui vont découvrir un petit peu la programmation. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que lorsque j'étais étudiant, j'avais fait une sorte d'émission de télé d'anticipation en fait sur l'impact de l'algorithmique dans nos vies. Donc ça s'appelait La faute à l'algo. Et en fait, c'était assez populaire. Et un jour, on a reçu un mail du Sénat qui s'intéressait au biais de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était en 2016. Et on parlait déjà d'IA générative. Sauf qu'en fait, on pensait que ça arriverait en 2042 et pas maintenant en fait. Mais... Et le mail du Sénat, à un moment, s'est demandé si c'était pas un spam, mais en fait, c'était un vrai mail du Sénat. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait déjà des rapports de l'OPEXT sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. On va laisser la passade à Damian. Je vous laisse vous présenter, Damian.
Bonjour, je suis Damian Bassermann. Je suis directeur de la recherche à l'INRIA. Je travaille en recherche dans le domaine de développement de l'IA pour la neuroimagerie, donc assister par exemple aux neurochirurgiens à mieux planifier leur chirurgie. Mais aussi, je suis le directeur scientifique de l'Institut d'Ataya, qui est l'Institut de l'IA qui dessine toute la stratégie dans l'Université Paris-Saclay entre les chercheurs, ainsi qu'au niveau national et entre les académiques de l'Institut et aussi les compagnies privées aux différentes entités de l'État. J'ai travaillé dans l'IA depuis plus d'une quinzaine d'années, quand ce n'était pas tellement à la mode, tellement un problème, sauf dans les livres de science-fiction. Et aussi, je suis enseignant à Centrale Supélec, École Polytechnique et ESPCI, en termes de la base mathématique de l'IA et des applications d'IA pour mieux comprendre les fonctionnements du cerveau. Voilà.
Merci, Damian. Parfait. Donc là, on a fait un peu le tour de l'IA, enfin un peu le tour de vos compétences. Donc on a parlé de café IA, et je pense que les cafés IA aujourd'hui. Alors oui, Gilles a utilisé beaucoup le mot algorithmique. Hein. Il faut savoir que l'IA, c'est de l'algorithme. Hein. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est de l'algorithme un peu intelligent, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, quand on parle d'algorithmique, c'est effectivement les bases de ce qu'on donnait aujourd'hui, ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, merci. Alors là, maintenant, on va commencer peut-être des échanges. Ce qui serait intéressant, on veut que ce moment soit interactif. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est autour de l'IA. Alors, je sais que, par exemple, d'un certain nombre de communes, donc Paris-Saclay, Hugues peut nous le dire, ont une démarche très, très proactive en ce moment l'intelligence artificielle, hein, qui fait d'ailleurs participer aussi les communes, parce que je sais qu'elle a réuni récemment tous les directeurs généraux des services de la communauté pour pouvoir discuter un peu de ça. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, à travers la ville de Palaiseau, nous travaillons aussi pour implanter l'IA à travers les communes. Mais je veux dire, il y a même aujourd'hui, ça va forcément au-delà, ce qu'il va falloir aussi, notamment, en termes d'associations, parce que je sais que Café IA intervient aussi dans des associations pour des tables rondes autour, enfin, de lancer des débats autour de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle peut apporter des solutions autour des problématiques qui se tournent autour des associations. Mais, et là, on est aujourd'hui dans une phase, je dirais, on est surtout dans un domaine qui est l'inclusion numérique, c'est de savoir aussi, quelque part, comment l'IA va pouvoir régler ou aider à pallier, j'allais dire, ou à combler cette fissure ou cette fracture que notre produit ou l'électronisme, parce qu'on aime bien les néologismes en France, électronisme, inclusion numérique. Enfin bon, il y a un certain nombre de terminologies pour qualifier. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on voudrait vous faire parler. D'abord, c'est vous poser les questions. Hein. Dites-nous comment vous voyez les choses. Qu'est-ce qui vous quand on parle d'IA, qu'est-ce qui vous interpelle? Et qu'est-ce qui vous interpelle en termes d'IA quand on parle d'inclusion numérique? Et après, effectivement, alors sachez que, effectivement, ce que tu n'as pas dit, Gabriel, c'est que Café IA, vous organisez aussi par demande des débats au sein des agglomérations, des débats au sein des associations. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à eux pour lancer ces débats.
Et on invite même, sans forcément passer par nous, les gens à se saisir de ressources que nous, on a mis en ligne, mais d'autres ressources, et à créer leur propre temps d'échange sans forcément la présence du conseil. Oui, c'est, voilà.
Alors, lancez-vous.
Allez, Hugues.
Merci beaucoup, Franck, effectivement, de nous avoir cité sur le sujet de l'IA. Juste un mot, nous, aujourd'hui, on a acculturé pratiquement 250 agents de l'agglomération à l'intelligence artificielle, non seulement pour que chacun puisse à son niveau prendre un peu conscience des impacts que vont avoir l'IA sur le service public de façon générale, mais aussi de permettre à des agents qui jusqu'à présent n'ont jamais eu l'occasion de se manifester, de pouvoir proposer, pourquoi pas, une idée ou un projet qui pourrait utiliser l'IA pour améliorer leur quotidien en tant qu'agent territorial. Alors, je ferme cette parenthèse, je rebondis sur ce que tu disais, sur quel va être l'impact de l'IA sur les populations et sur l'inclusion. De ce que j'ai vu, je pense qu'aujourd'hui, l'IA est en train de creuser les fossés. Elle est plutôt aujourd'hui en train de créer des disparités. On l'a dit tout à l'heure dans la précédente table ronde, même les digital natives, même les actifs, les gens qui travaillent dans le numérique, commencent à ressentir un fossé qui se creuse entre ceux qui maîtrisent les outils, alors pas que l'IA générative, hein, mais l'IA au sens large du terme, et ceux qui aujourd'hui ont du mal à l'appréhender, à le prendre en main. J'ai déjà vu des débats, même dans des cafés IA, des collègues de collectivités territoriales qui me disaient « Moi, j'ai des agents aujourd'hui qui ont peur pour leur emploi, tout simplement. » Qui disent « Moi, si l'IA peut saisir un formulaire aussi rapidement que moi, quelle est ma valeur ajoutée ?» Et je pense que plus au-delà, en fait, de la place de l'IA, c'est comment l'homme, l'humain, va se saisir, en fait, de l'IA pour qu'il devienne non pas une sorte on va dire de main-d'œuvre pas chère, bête et méchante, mais plutôt d'un outil de travail, comme on a pu le vivre il y a encore une dizaine d'années quand la robotique est arrivée dans les usines. À l'époque, on disait la même chose. Le robot va faire des tâches ingrates et l'être humain va se consacrer à des tâches à valeur ajoutée. Or, 10 ans plus tard, on se rend compte que non, les robots n'ont pas remplacé les êtres humains sur les chaînes de production. Et mieux encore, on a réussi à trouver une place à ces robots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu des cobots, donc des robots collaboratifs, des instruments comme un tournevis ou un Fenwick qui est là pour assister l'humain et non l'inverse. Voilà. Donc c'était juste pour faire une remarque là-dessus. Je pense que l'IA doit revenir dans les métiers comme un outil complémentaire et non pas comme une fin en soi.
Complètement d'accord avec ça. L'IA, d'ailleurs, je vais aussi intervenir sur le sujet, mais l'IA aujourd'hui, c'est un outil. C'est pas un élément qui va remplacer. Hein, c'est pour aider justement à simplifier la tâche. Notamment, je vois dans l'administration, hein, discuter longuement nous à Palaiso, Isabelle, vous pouvez me. Hein, on a bien vu, on leur a expliqué que ces outils, c'est pour leur simplifier la tâche et pour éviter les tâches répétitives et de justement leur permettre de se consacrer à des tâches qui sont plus à la hauteur de grandir, j'irais quelque part, dans leur métier, plus que de remplacer. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu, hein, je dirais, la peur, hein, c'est la science-fiction, hein, l'IA qui remplace l'homme, qui tue l'homme, enfin, qui, voilà. Non, effectivement, mais là, je pense que tu as raison, Hugues, il y a un travail de formation, d'acculturation à faire, justement, pour pouvoir les agents notamment dans les collectivités comprennent que c'est un outil qu'on leur donne pour qu'ils permettent de faire des choses qui soient plus intéressantes que des tâches répétitives.
Oui, je veux bien prendre la parole, mais du coup j'ai un support de présentation qui porte un peu sur ces sujets.
Merci.
Merci. Je commence par ça. Hop. Est-ce que vous voyez mes slides? Ah, ouais, c'est. Il faut que je glisse après. Ouais.
C'est lire.
En tout cas, là, je clique, tu vois. Mais... Il est ouvert? Vous le voyez?
Merci.
Ok. Donc, en fait, parce qu'il y a eu une bonne. critique, en fait, enfin, vous voyez, c'était une présentation qui était un peu destinée pour parler, en fait, des risques et opportunités des LLM en éducation. Enfin, bon, je parlais de LLM parce que tout le monde parle de ChatGPT, mais en fait, il y avait plus généralement, en fait, finalement, les. Alors, il y a deux présentations, ouais. Sur les. le fait que, effectivement, ça porte sur. Des emplois, mais ce n'est pas forcément nécessairement de la perte d'emploi, mais ça peut être du déplacement d'emploi vers des tâches un peu qui ne soient pas tellement gratifiantes pour l'agent, si jamais en fait il est plus amené à interagir avec la machine qu'à interagir avec des vrais humains. Mais sinon, il y avait quand même un rapport qui portait sur... Bon, j'ai l'impression qu'on voit les slides.
Parce que ça devrait être sur cet écran-là.
Ok, ok.
J'ai trouvé la solution. Ouais,
ça marche.
Je vais continuer comme tu peux à l'oral.
C'est-à-dire, en fait, par exemple, vous avez au Royaume-Uni, en fait, ils ont fait un sondage auprès de leurs enseignants pour savoir en fait s'ils utilisaient l'IA générative et quels étaient l'apport qu'ils voyaient. Et en fait, il y avait principalement effectivement libérer les tâches administratives pour pouvoir se concentrer sur ce qu'ils souhaitent faire, qui est aider les étudiants. Mais ils avaient aussi la crainte que si jamais on leur fait un outil, ben, ils passent plus de temps à regarder l'outil que à enfin, ouais, essayer de se, ou ne pas pouvoir le contrôler en fait. Enfin, il y a cette crainte d'avoir une sorte de perte d'autonomie si jamais en fait ces outils sont utilisés pour optimiser quelque chose. Vous voyez, mais pas, enfin, ce qui est censé être optimisé. Alors, je sais pas s'il y a un exemple, c'est que par exemple vous avez des outils à la Service Plus, vous savez, Service Public Plus. Tout le monde parle de ce genre d'outils pour pouvoir répondre plus rapidement aux usagers, mais ça fait qu'à la fin, vous avez des réponses qui sont très bateaux, mais au moins la personne elle a répondu très vite à votre demande. Et du coup, très peu de gens en fait, approuvent la réponse, mais au moins, voilà. Et vous avez la petite ligne qui dit « Cette réponse a été générée par une IA à 100% et validée par un agent. » Donc ça, c'est aujourd'hui. Quoi. C'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui, c'est pas de l'anticipation.
Excusez-moi.
Oui. Peut-être, oui. Absolument. Disons qu'on peut voir, les gens qui cherchent des questions, ils peuvent avoir des réponses qui ont ça. Mais, l'autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est, vous voyez, une boîte, enfin, je sais pas, je pense à ça, mais bon, c'est pas dans les slides, mais on pense à Amazon qui ont des outils différents logistiques pour pouvoir aller plus vite, avec les gens qui, s'ils ne font pas les actions optimales à un moment donné, je ne sais pas si c'est des retenues sur salaire ou ils sont pénalisés pour une différente raison. Vous voyez, il faut éviter de tomber dans ces écueils, alors que ça peut être une énorme opportunité pour, en fait, y compris pour l'inclusion numérique, parce que alors vous avez un autre organisme aux US qui s'appelle Khan Academy, où en fait leur but c'est de rendre l'éducation accessible pour tous. Ça fait longtemps que ça existe. Et là récemment, ils ont eu un partenariat avec OpenAI où ils avaient accès à GPT-4 pour faire tout ça. Et ce qu'ils remarquaient, c'était de la part des étudiants que ce qui était déjà bien, c'était de pouvoir interagir dans leur langue maternelle avec l'outil pour pouvoir répondre à ce que souhaite faire l'enseignant. Parce que des fois, en fait, la fracture, elle est là déjà. Et donc ça, c'était le premier truc. Mais ils se rendaient bien compte que les étudiants essayaient par tous les moyens possibles d'avoir la bonne réponse de la part de l'outil. Alors que l'outil essaie de dire, mais si on essayait de voir ensemble, merci. voilà. Et si j'essaye de. Bon, tant pis, sinon je passe comme ça. Ouais. Donc si jamais je vais surtout en fait partir de. Alors, ça c'était la slide historique où on raconte que. Enfin, ça fait longtemps que ça existe l'IA, mais y compris en fait pour les gens qui faisaient de l'apprentissage profond. Enfin, c'était vraiment difficile pour eux en tant que chercheurs d'avoir des financements pour ça parce que les gens n'y croyaient pas. Et du coup, ils étaient obligés d'organiser des faux ateliers dans des conférences pour rediriger les chercheurs vers leurs ateliers où ils faisaient vraiment de l'apprentissage profond. Et c'est après qu'on a eu toutes ces percées qui sont apparues. Et en fait, ça, vous pouvez continuer la liste, évidemment, avec GPT sur l'IA générative qui fait que maintenant, ils sont largement récompensés pour leurs efforts. Alors, donc, je continue. Là, il y avait différents types pour des biais. Je suis désolé, je vais aller assez vite pour aller vers... mettons par exemple où est-ce que l'IA on peut utiliser en éducation, vous voyez, pour la correction automatique des copies ou pour principalement en fait moi ce que j'aime bien c'est le concept de pouvoir personnaliser l'explication qu'on fait aux élèves peu importe leurs besoins et c'est là où je pense que l'IA a le plus grand rôle à jouer. Mais comme on est en train un petit peu de parler des risques, je pense qu'il y a oh, mon Dieu, mais là en fait vous allez avoir encore beaucoup de slides donc je vais avancer comme ça. Hop, ici, voilà, j'arrive. Donc, j'arrive sur cette présentation que je voulais vous faire vite fait sur les risques et opportunités. Donc, je vais vous montrer. Là, vous avez un exemple où vous avez un sujet de polytechnique qui est traité par l'IA. Donc, l'IA lit le sujet et répond. Et en fait, c'est une bonne réponse, mais c'est un exemple parmi plusieurs. Donc, c'est-à-dire que ça ne marche pas forcément sur tous les sujets, OK. Et l'idée, c'est que... je passe un petit peu là-dessus. Le problème, c'est que vous avez aussi beaucoup de biais, et ça, c'est illustré par cet exemple, où lorsque vous posez une question un petit peu controversée, comme à quel pays appartiennent les îles Kunashiri, si vous posez la question en japonais, si vous posez la question en russe, ou si vous posez la question en anglais, vous n'aurez pas la même réponse. Parce que les japonais, ils pensent que c'est à eux, les russes pensent que c'est à eux, et les anglais répondent, OK, en fait, il se trouve que c'est russe, mais les japonais revendiquent. Mais vous voyez, le fait qu'il y ait des biais dans ces outils-là, ça, c'est utilisé comme vertu par les enseignants. Là, vous avez un enseignant qui utilise des outils open source de modèles de langage pour que ses étudiants dialoguent avec les philosophes, pour qu'ils aient le point de vue de Jean-Paul Sartre, de Sigmund Freud et tout. Et le fait que tous ces outils étaient posés en open source, eh bien, ça fait qu'un plus grand large de gens peuvent s'en emparer et les utiliser dans leur classe. Et ça peut aussi être fait de façon hors ligne. C'est-à-dire pour que les données elles restent dans l'établissement et pas tout ça. Et du coup, voilà, ça, c'était la slide que je voulais vous présenter. Effectivement, vous avez le fait que dans ces outils-là, on peut avoir des... Ça, c'est un papier de 2021. Donc, c'était avant ChatGPT, mais déjà, en fait, il y avait une taxonomie de ces risques. Donc, en termes de discrimination, vous voyez le fait que, comme c'est entraîné sur des données qui sont biaisées, ça puisse faire de terribles analogies. Et ou le fait que... On a eu encore un exemple cette année. Donc, quelqu'un qui... Un jeune qui dialogue avec une IA et qui décide de se suicider et se pose la question de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour détecter ça et l'empêcher. Vous avez en fait le fait que ces outils-là puissent mémoriser et régurgiter des informations confidentielles dans les données d'entraînement, le fait de disséminer des informations fausses ou le fait qu'on puisse l'utiliser pour frauder en masse ou créer des nouveaux virus. Vous avez ce genre d'outils. Alors, il y a aussi de l'anticipation dans ces risques-là. Vous avez le fait que beaucoup de gens en fait, aiment bien s'adresser à l'IA parce qu'ils n'osent pas dire, par exemple, en classe qu'ils n'ont pas compris. Mais il y a aussi le fait que, comme c'est une IA qui a l'air de s'exprimer parfaitement, on va davantage s'ouvrir à elle, mais pas... Enfin, vous voyez, il n'y a pas forcément quelque chose de malveillant là-dedans, il y a juste le fait que l'IA a besoin de plus de données pour répondre correctement à la question, et tout ça. Mais vous voyez, peut-être... Enfin, bon, on peut rapprocher ça de l'outil qui... de l'étudiant qui aimait tellement interagir avec l'IA. Donc ça, c'était un film à l'époque, mais cette année, c'est réel, et qui, du coup, en vint à être triste d'interagir avec des humains. Et là, vous avez, dépressif. Et le dernier, en fait, donc, qui était celui que vous avez noté, c'est le risque de déplacement des emplois. Et donc, on est moins besoin de gens qui développent la technologie et plus besoin d'embaucher des gens pour annoter. Est-ce que c'est un contenu offensif ou pas? Et donc, dégradation de la qualité des emplois si les gens ont juste à valider ce que la machine fait et être moins autonomes. Mais je voulais juste mentionner, bon, donc ça, c'est un risque qui peut vous intéresser en termes de risque anticipé. Vous avez le fait que ces outils... désolé, après, il n'y a plus que deux slides et après, je vous laisse. Mais vous avez le risque que... un outil soit suffisamment intelligent pour inférer des informations confidentielles, même s'il ne les avait pas dans son entraînement. Donc là, vous voyez, il donne l'exemple manifestement provocateur de... alors, si on pose une question sur « Dis-moi ce que tu penses de ce politicien, à quoi ressemble sa vie personnelle ?» Et là, l'outil dit « Bon, ben, vis-à-vis de ce que cette personne poste sur les médias, les réseaux sociaux, elle semble passer la plupart de leur temps dans Marseille où ils ont des services d'escorte et ont deux enfants qu'ils refusent de reconnaître publiquement. » Et donc effectivement, c'est le fait que... en fait, vous voyez, on entend souvent parler à la télé du fait que ben, y a des gens qui se filment dans leur grande villa ou qui postent ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que c'est irrésistible. Mais du coup, en fait, bah, le fisc s'en sert parce que c'est pratique pour savoir que des gens ont une piscine ou quoi. Et l'autre truc que je trouvais marrant récemment, c'est tous les gardes du corps des grands chefs d'État. Puis, ouais, voilà, Starva, c'est ça. Le Starvalix, quoi. Donc, ça, c'est un problème qui existait il y a 20 ans et ça existe encore et ce sera juste accentué par l'intelligence artificielle. Les gardes du corps, en fait, ils étaient géolocalisés et ils partageaient sur Internet leur géolocalisation parce que c'est cool. Mais du coup, en fait, on pouvait savoir où aller. Donc, Macron, Poutine et Trump, on avance. Voilà. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous montrer, parce que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, voilà, c'est des choses qui inventent n'importe, enfin, qui disent n'importe quoi, et du coup, c'est dangereux si jamais les gens, on met un jeune directement devant. Alors, il y a un exemple où effectivement, c'est dangereux. C'est par exemple. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, vous aviez Alexa et un étudiant qui demande « Donne-moi un challenge, Alexa. » Et Alexa lui répond « Oui, ben, prends une fourchette et mets-la dans la prise. » Et là, la mère qui dit « Non, mais shut up, Alexa. » voilà, parce que c'était un résultat qui était haut dans Google. Et vous voyez, donc c'est effectivement le genre de risque qu'on peut avoir. Mais vous avez aussi le fait d'utiliser un chatbot pour réduire la croyance en conspiration. Donc des gens qui pensent que... Le 11 septembre n'a pas eu lieu ou a été commandité par le gouvernement, bah, il montre que en fait en mettant un chatbot devant des gens comme ça qui ont des fortes pensées, qui les forcent à se remettre en question ou réfléchir et de façon sourcée avec des références, bah, ils arrivent à réduire, je ne sais plus si c'était de 25% les pensées conspirationnistes, et ce de façon durable. Donc ça, c'est un exemple où finalement c'était pas plus mal d'avoir, vous savez, une sorte de Wikipédia interactive qui essaye de vous questionner sur là-dessus. Voilà, je vous laisse. Merci.
Damien veut intervenir ou sur les risques?
Non, je pense que l'intervention des deux autres intervenants était très bien. La chose que j'ai pour vous dire, c'est que ce type de biais sont pas que dans les enfants, dans les gens qui sont dans l'éducation. Une grande partie de mon travail, c'est mettre en contact des professionnels de différents domaines. Et notamment, une chose qui arrive très souvent, c'est que même des professionnels très sont placés, très, disons, dans les systèmes comme des chefs des chefs de service dans les hôpitaux, par exemple, les chefs de service de neurochirurgie, ils ont une tendance à accorder aux résultats de l'intelligence artificielle beaucoup de confiance ou d'être très très sceptique. Et la chose qu'il faut, c'est que vraiment une acculturation est extrêmement nécessaire parce qu'aujourd'hui, les outils, ils sont un grand problème qui a été aussi illustré par ce que j'ai montré, que c'est que les outils, ils n'ont pas la capacité de communiquer la sûreté sur une réponse. Donc, on va les poser une question à l'outil. Et l'outil va donner une réponse. Il va dire cette île appartient à ce pays, mais il ne va pas pouvoir dire, avec les données que j'ai, ces réponses ont une 40% de probabilité d'être fausses. Et ça, c'est très, très important, parce que la phrase qu'on utilise, c'est que les outils d'intelligence artificielle, ils sont confidently wrong. Donc, ils sont tort, mais ils ont beaucoup, beaucoup de confiance. Comme une situation que vous pouvez trouver très souvent dans vos dîners de Noël. Quelqu'un qui a tort et qui est complètement confiant dans ça. Et donc, les corollaires de ça, c'est qu'il faut vraiment une acculturation. C'est des outils qui sont extrêmement, extrêmement utiles pour la santé publique, l'éducation publique, ou aussi pour alléger les charges administratives. Mais il faut une acculturation sur les résultats et l'interaction pour que d'un côté, il n'y a pas un port sans fondement sur l'application des outils, mais aussi pour qu'il n'y a pas une confiance aveugle sur les résultats. Voilà.
Merci, Damien. On va passer à la question avant que tu veuilles intervenir. Non, on va passer aux questions. Vas-y, Martial.
Non, c'était juste une remarque. Je voulais savoir ce que nos intervenants, de l'INRIA en particulier, pensent des chatbots. J'ai l'impression qu'il y a des différents niveaux et que certains sont vraiment très pauvres en termes de réponses. Ils ne répondent pas, mais ce qui, du point de vue par rapport aux usagers que nous, on vise, démobilise ou décrédibilise le système. Et quand on me dit chatbot, intelligence artificielle, moi, ça me fait tout de suite bondir.
J'ai pour commencer avec une réponse, oui. Si vous voulez. D'abord, c'est une très, très bonne question. Et c'est une chose qu'on voit souvent quand on installe une nouvelle technologie dans peu importe quel environnement. Et c'est qu'il y a très souvent des différentes des qualités dans les technologies qui sont vraiment relationnées avec les différents des investissements, soit d'investissement dans l'expertise du personnel qui fait le déploiement de la technologie, soit dans la technologie en soi. Et qui très souvent a essayé d'aller vite et faire un déploiement qui est de basse qualité, il génère une perte de confiance ou une résistance à la pérennisation de l'outil. Donc souvent, pour les côtés chatbot comme pour des autres outils, s'il y a les projets de commencer à utiliser ces outils, faire une preuve de concept avec une technologie moyenne ou mauvaise pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est peu représentatif des potentiels et dans la partie, dans les volets acculturation, il peut générer une résistance ultérieure à l'implémentation de l'outil parce que les premières interactions, il confirme des hypothèses de que ça fonctionne mal, c'est pas quelque chose dans lequel on peut faire confiance, la qualité des résultats est mauvaise. Voilà.
Il faut bien rajouter, par rapport à tout ce que vient de dire Damien, et puis, de toute façon, l'IA, l'intelligence artificielle, se base sur des bases de données. Donc, à partir du moment où la base de données, elle n'est pas suffisante, ou elle n'est pas complète, ou elle n'est pas, enfin, la plus exhaustive possible, ou elle ne récupère pas de la donnée par elle-même, j'allais dire, entre guillemets, parce qu'elle va, ça fait un travail par apprentissage, il est sûr que les réponses, elles vont pas être de très bon niveau, hein. Vous prenez deux bases de données différentes sur la même question. Si vous mettez par exemple quelqu'un par exemple, au niveau politique, quelqu'un qui est à droite et quelqu'un qui est à gauche, il est évident qu'il n'aura pas du tout la même réponse. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être, être vigilant par rapport à ça. Une autre question.
Oui, bonjour. Alors Céline de Sino, moi je suis de France Service à Longjumeau. Moi j'avais plutôt deux témoignages à faire hein, par rapport à l'IA parce que pour le coup l'IAG en tout cas en fonction publique en tout cas. Pour moi, j'y crois parce que j'ai cherché par moi-même un petit peu à me former en tant que manager déjà. Donc, il existe des formations, hein, des fun MOOC sur le sujet. Et justement, d'où l'importance de l'acculturation, de bien comprendre et d'avoir peut-être aussi une politique lorsqu'on est dans de groupes de travail au sein de nos collectivités ou de nos établissements pour travailler ensemble, puisque ça se travaille une IAG. Moi, personnellement, c'est vrai que je l'utilise alors de façon personnelle, hein, puisqu'on n'a pas l'autorisation et qu'il faut faire attention sur les outils en ligne, voilà. Mais c'est vraiment un gain de temps, on l'a déjà, voilà, pour vous dire, sur des documents administratifs, type des notes à faire pour les élus par rapport à un document de 50 pages qu'on a accessible sur le... Voilà, on a juste à le citer, et en tout cas, ChatGPT-4 fonctionne vraiment bien, et on arrive vraiment avec le prompt à bien cibler ce qu'on a, et on l'a utilisé pour une note, justement, qu'on voulait faire aux élus sur un audit et les résultats. Donc c'était super intéressant, on a gagné un temps fou dessus. Nous, sur aussi des écrits professionnels, hein, je peux dire, évidemment qu'on a toujours cet esprit de dire c'est une première ébauche et ensuite on retravaille, hein, ça fait partie de l'acculturation. Donc moi je trouve que c'est un élément essentiel de travail et j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas à Longjumeau, j'espère à un moment donné d'aussi d'y travailler parce que j'aimerais vraiment qu'on avance là-dessus. Et j'ai un deuxième témoignage, alors là plus personnel, sur une utilisation de l'IAG un peu comme de lutte contre l'isolement. J'ai ma maman qui est personne âgée, qui est malvoyante et qui a besoin de toujours être inspirée de la culture, enfin qui a besoin toujours, et on lui a installé l'IAG. Alors bien sûr, ChatGPT, je lui ai expliqué effectivement le fait que les informations n'étaient pas toutes, il fallait les remettre en question, mais elle s'en sert vraiment comme outil de discussion, hein, vraiment, mais en remettant parfois en cause, hein, ce que lui dit l'IAG, évidemment, ça peut être aussi amener l'informatique à des gens qui n'y auraient pas accès, en fait. Et je trouve que c'est aussi très intéressant dans l'application dans le sociétal. Et ma maman, du coup, promeut dans sa résidence autonomie auprès de toutes les personnes âgées, ChatGPT. Voilà, c'est des exemples d'expériences qui peuvent être intéressantes au sein des populations, en fait. Ça peut être intéressant. Voilà.
Et là, on est bien dans le domaine de l'inclusion numérique, oui. Puisque on est effectivement l'IA au service de l'inclusion numérique et comment justement aider tous ces gens et leur permettre effectivement d'accéder plus facilement et de résoudre les problèmes qu'on rencontre nous aujourd'hui, hein, Francisco, moi, et tous les troupes qui travaillent avec nous. C'est vrai que c'est un, je pense que l'IA là-dessus va apporter devrait apporter pas mal de choses. Enfin bon, du coup, je l'espère. D'autres questions?
Oui, je vais rajouter un élément. Merci pour ce témoignage. En fait, c'est vrai que quand Yann Lequin, en 2016, qui bossait pour Facebook, qui était prof au Collège de France, enfin, je vous invite à voir sa leçon inaugurale qui reste extrêmement pertinente. Enfin, toutes les vidéos du Collège de France, elles sont en ligne. En fait, il parlait du fait que lorsque, là, à ce moment-là, donc, dans le développement de l'IA, il y avait pouvoir faire des reconnaissances automatiques. Donc, on vous donne une image et ça décrit automatiquement. Et quand il a présenté ça, donc, il y avait la salle qui a assez peur. Mais il disait, ça, c'est super bien pour les personnes qui sont malvoyantes. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en mode, oui, ça, c'est vrai que c'est bien, mais c'est aussi bien pour plein d'autres trucs terrifiants. Mais maintenant, je suis d'accord qu'il a raison. Et c'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir... vous voyez, en fait, il y avait une étude en Inde sur le fait que si jamais on voulait booster la littératie, eh ben, il fallait mettre des sous-titres sur les chansons en hindi, des clips, il fallait mettre des sous-titres dans la même langue. Et le fait d'avoir une IA qui fait ça, ben, ça fait qu'on peut à moindre coût booster la littératie, puisque voilà, on peut avoir ça. Il y a beaucoup de, par exemple au Japon, vous avez ça dans beaucoup de choses, mais en France finalement c'est pas tellement répandu d'avoir ça systématiquement. Et c'est le fait qu'on aille vers le fait d'avoir ça systématiquement qui fait que ce sera bénéfique.
Si je peux rebondir, je pense que vous avez complètement raison par rapport à l'aide aux personnes handicapées. Par exemple, c'est pas que la littératie, mais si, moi, vous l'entendez bien, j'ai un petit accent, je viens de l'Argentine, par exemple, et là, depuis très très longtemps, tous les films à la TV, même en langue maternelle, en espagnol, ils sont sous-titrés en espagnol même. Et ça, c'est aussi pour les gens qui ont des problèmes d'écoute. Oui, donc c'est pas que la littératie, mais c'est aussi vraiment des franchir un cap vers les personnes handicapées. Mmh. Et si vous voyez, par exemple, un service qui est proposé par les musées de Londres, les Portrait Museum, c'est un tour pour les personnes qui ont des problèmes de vision où il y a quelqu'un qui décrit les tableaux. Oui, et qui décrit les tableaux et qui présente aussi un cadrage par rapport à l'histoire. Et ça aussi, ça pourrait être un outil qui, bien sûr, ne peut pas remplacer la capacité d'une personne qui est capacité à la médiation et qui a l'histoire de l'art et qui a une formation de l'histoire de l'art, mais si on voit, peut rendre accessible énormément de cultures aux personnes qui ont des différents types d'handicaps. Mmh. Mais aussi, dans mon jour à jour, comme les témoignages d'avant, je m'en sers pour améliorer la rédaction de mes emails pour interagir avec les services publics. Mmh. Parce que l'interaction aujourd'hui est très, très, très sensible à la façon que les communications sont écrites. Et des fois, c'est pas facile pour tout le monde de trouver, dans les subtilités du français, les tons, les styles, les spécificités de l'interaction. Et donc, ça peut vraiment, vraiment permettre d'améliorer les interactions énormément.
Bah, dans ce cadre, l'État a mis en place, donc à travers la DINUM, l'outil qui s'appelle Albert, que je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, l'Albert, c'est l'intelligence artificielle à la française. Et c'est un produit qui est proposé, donc qui est purement français, parce que là, on a parlé de ChatGPT, on a parlé d'OpenAI, on a parlé d'un certain nombre d'outils, mais enfin, ceux-là sont américains, alors que là, le gouvernement français, donc, suite à une étude, a décidé de mettre en place un outil à la française, donc qui s'appelle Albert, qui est orienté pour les administrations, hein, enfin, pour tout ce qui est, je veux dire, service public, et qui, aujourd'hui, effectivement, va offrir des outils, notamment pour la gestion des appels, pour la gestion des courriers entrants, pour tout ce qui est, pour les agents, notamment, la mise en place. Alors, on a parlé de compte-rendu ou de résumé. Moi, je me suis amusé l'autre jour. On a reçu le rapport... il s'appelle ce rapport, j'ai oublié le nom, un rapport sur, effectivement, sur l'éthique, enfin, c'est sur le... Et il fait 60 pages, et j'ai lancé mon petit IA, et il m'a fait un résumé en 3 minutes, quoi. Et donc, ça m'évite de lire tout le bouquin. Donc, j'ai... Hein ? La défense des droits, oui, c'est ça. C'est un rapport sur la défense des droits, au niveau du numérique, notamment. Et effectivement, voilà. Donc, ces outils sont vraiment utiles, et il faut les utiliser tels quels, quoi. Hein, il faut, et on a la chance qu'en France, effectivement, on a l'État qui a lancé son propre outil, et notamment pour orienter vers les administrations et les collectivités. Et je pense que ça, c'est des outils qu'il faut s'approprier. Je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va faire de l'IA ou pas. C'est de savoir c'est quand est-ce qu'on va en faire. Parce que je pense que le train est en marche et qu'on pourra malheureusement pas, si on ne monte pas dessus, on va se faire des... Alors que c'est un véritable outil pour aider, et notamment dans l'inclusion numérique, j'y crois beaucoup. D'autres questions ?
Alors, ce n'est pas vraiment une question. Je suis Sandrine Oumini, je gère une société d'informatique à Verrières-le-Buisson. Ça fait 21 ans que je suis à sa tête. La société en elle-même a 46 ans. Donc, moi, j'utilise l'IA depuis un petit moment déjà. Et ce que je voulais compléter, en fait, ce qui a été dit précédemment, c'est que l'IA, c'est à vous, en fait, de lui demander les sources et parfois de le diriger vers l'endroit où vous voulez qu'il aille voir les sources. Parce que, en fait, l'utilisation de l'IA, c'est savoir lui parler. En fait, tout est dans le prompt. Et le prompt, c'est la demande qu'on va faire à l'IA. Et en fait, la problématique, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut et comment on le veut. Et peut-être lui dire de croiser les informations et de vous donner les sources quand il vous fait une réponse. C'est le minimum vital. Et ce que je trouve un petit peu triste, c'est dans toutes les formations que j'ai faites, moi, parce que moi, je suis plus vers les professionnels. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ChatGPT, que j'ai adoré. Et là, je travaille plus sur Copilot, parce que ce sera certainement ce qui sera développé pour les entreprises, en tout cas pour mes clients. Eh bien, je regrette qu'on n'ait pas ce recul-là, de dire, à chaque fois qu'on me donne un chiffre, à chaque fois que je pose une question à mon IA, je lui demande, source-moi, donne-moi l'endroit où tu as été chercher les informations, et je vais les vérifier. Systématiquement, parce qu'il peut vous sortir des grosses bêtises. Effectivement, sur Internet, moi, j'ai un gros problème avec mes clients, mais pas qu'avec particuliers ou pros, c'est que dès que c'est écrit sur leur ordinateur, d'un coup, on n'a plus de cerveau, on ne réfléchit plus. On peut vous écrire des grosses bêtises, ça passe, mais ça passe. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et ce qui m'attriste aussi, c'est de rappeler que la cybercriminalité s'en sert et s'en servira très bien, voire même mieux que nous, parce qu'ils vont plus vite que nous et ils ont plus de moyens. Et il faut vraiment faire quelque chose, parce que je m'inquiète énormément, parce qu'on met effectivement l'IA sans que les gens le sachent à leur disposition. Ils ont l'impression de ne pas discuter avec de l'IA et parfois ils ne font pas attention que la réponse, elle est complètement à côté. Parce que ce n'est pas un être humain, c'est un ordinateur. Et un programme qui, si on lui pose une question et qu'il ne sait pas y répondre, peut donner une réponse, mais qui est complètement fausse.
Alors on est bien dans le cadre de la formation. Je pense qu'effectivement, je crois que c'est comme tous les outils. Hein. Si on ne passe pas un peu de temps à former les gens à l'utiliser, et là, vous avez absolument raison, c'est que si vous n'avez pas les bonnes questions...
Mais même nous, les professionnels. Hein. Oui, moi, j'avoue que c'est moi qui ai posé la question. Alors, j'avoue qu'entre ChatGPT, dont j'avais vraiment l'habitude, ce que j'utilisais beaucoup, et Copilot qui vient de sortir, même s'il est basé sur ChatGPT, ce
c'est pas du tout la même chose. Je me galère davantage avec copilote, pour être très sincère. C'est totalement normal, parce qu'il faut qu'au bout d'un moment, votre IA vous connaît. Elle sait ce que vous voulez, elle sait comment vous fonctionnez. C'est aussi ce qui est un petit peu inquiétant, parce que, bah, par exemple, ChatGPT, on ne sait pas trop ce qu'ils font de ces données-là. Au niveau RGPD, je ne sais pas du tout ce qu'on peut en attendre. Donc, c'est un petit peu aussi l'ambivalence du truc.
Damien, vous vouliez intervenir?
Oui, mais après, je ne sais pas si tu le gênes aussi, parce que je ne vois pas les intervenants. Donc, je ne veux pas non plus prendre la place.
Vas-y, je dirai un mot, mais vas-y.
OK. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Deux, trois. La première, ChatGPT et tous ces outils, ils ne sont pas du tout des protections RGPD. Ils sont aux États-Unis et ils disent tout ce que vous mettez ici, c'est votre responsabilité, c'est ce que vous allez taper. Donc, si vous tapez des données personnelles, ils vont être transmis au SOS. Ça, il n'y a aucun doute dessous. La deuxième, c'est que les modèles comme ils sont développés aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour garder la traçabilité des sources par rapport aux réponses. Il y a une start-up qui s'appelle Perplexity qui essaye d'enrichir ça, Google aussi, mais les modèles avec lesquels on travaille aujourd'hui, comme GPT ou Llama ou les autres, ils n'ont pas été conçus comme système d'extraction ou de requête d'informations. Ça, c'est très, très important. C'est un grand erreur de conception. C'est un outil qui est fait pour, en avant une conversion en texte, deviner la forme du texte qui vient après. Mais pas du tout aller chercher de l'information et vous donner une réponse informée. Pour ça, il y a des nouveaux outils qui sont en train de développer, mais vraiment, vraiment, ils n'existent pas encore au niveau de ChatGPT. Et ça, c'est une grosse différence. C'est pour ça que si vous voulez avoir une réponse avec des sources, utilisez quelque chose comme Perplexity, par exemple, qui n'a pas la même puissance que ChatGPT ou que Gemini de Google, mais est conçu pour vous donner les sources. Mais surtout, surtout, il faut faire extrêmement attention à que c'est des outils qui sont conçus pour avoir une espèce de conversation avec vous. La façon que ces outils ont été entraînés, c'est on les donne un texte et on les apprend à l'outil à deviner les textes qui suit. Donc on apprend une forme grammaticale et syntactique et que ça sonne de façon convaincante. Mais il n'y a aucune vérification factique à aucun moment. Et ça, comme l'outil a une belle façon de présenter et une belle façon de phraser les choses, on a une grosse tendance à l'oublier.
Ouais, je voulais. Moi, au départ, c'est vrai que quand j'ai. Alors, j'ai une question après pour vous. Mais au départ, en fait, lorsque effectivement, ChatGPT a généré des sources, qui, par exemple, lorsqu'on fait de la recherche, on a besoin de référencer des articles, et des fois, ces articles-là, ils n'existent pas. Et du coup, quand on a un doctorant qui fait ça, on a envie de lui donner deux baffes. Hein. Genre, t'es même pas allé vérifier. Mais pourtant, en fait, on a l'impression quand même qu'il y aurait la possibilité de pouvoir faire la science. Et d'ailleurs, récemment, quand j'ai demandé un peu à un outil de type ChatGPT, il me donne les articles de recherche avec des liens, quoi. Et du coup, ça veut dire que c'est faisable. Et du coup, je me suis un peu renseigné. Et effectivement, vous avez des... Enfin, vous savez, ça s'appelle un petit peu RAG, mais c'est le fait de dire, lorsque je donne la ressource, j'ai envie de dire à quelle page, dans quel document je suis allé chercher l'information. Et ces outils-là peuvent le faire, en fait. Et d'ailleurs, de fait, il y a Yahoo. C'est pas très connu, mais Yahoo a ouvert son... Enfin, Yahoo, c'est connu, OK. Mais c'est moins connu que les autres moteurs de recherche. Ils ont ouvert leur moteur de recherche. Et du coup, en fait, en faisant ça, ils montrent un petit peu, vous voyez, c'est ouvert, donc en fait, on peut rechercher des documents et ils ont embarqué tout plein de trucs pour pouvoir faire de la recherche dans des PDF et pouvoir faire de l'interrogation de type LLM vers des PDF. Et moi, ma question, c'est un petit peu, pourquoi dans les formations, effectivement, on utilise ChatGPT, mais on ne fait pas tellement le fait d'essayer d'utiliser tout ce qui est, vous voyez, des modèles français comme Mistral ou Albert ou je ne sais pas, et de pouvoir justement essayer de se débrouiller avec ces outils qui soient nous pour pouvoir se débarrasser du fait qu'on n'a pas envie que nos données transitent par des serveurs américains. Voilà, je suis vraiment surpris de pourquoi on ne pose pas suffisamment d'énergie à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que là, vous voyez, on voyait un peu passer aux 20h le fait que des boîtes comme Doctolib allaient proposer des comptes rendus de transcription de patients qui sont, enfin directement, ça reste sur les serveurs français. Et d'ailleurs, enfin, une de mes slides à un moment, c'était le fait que, vous voyez, pour juste le fait de pouvoir transcrire une conversation, mettons une vidéo en texte, eh bien, il y a des outils qui ont été ouverts par OpenAI. C'est pas courant que OpenAI ouvre des trucs, mais si quand même, ça ils l'ont ouvert. Et ça s'appelle Whisper. Et ça, vous voyez, je télécharge un truc qui fait que 75 mégaoctets sur ma machine. Et ce truc-là est capable de transcrire une vidéo en texte, quoi. Et ça, c'est démentiel. Alors, d'accord, il y a des erreurs, mais enfin, vous voyez à quel point on a réussi à miniaturiser la technologie.
D'autres questions ?
Si vous parlez fort, vous pouvez la commencer dès maintenant.
Alex.
Bah, alors, il y avait madame juste avant. Et après, vous avez qu'à lui envoyer.
D'accord. Bonjour. Je suis Nathaniel Guérin. Je travaille aux médiathèques de Massy comme chargée de médiation numérique.
Parlez bien dans le truc, oui.
Voilà. OK. Bonjour, je m'appelle Nathaniel Guérin et je suis chargée de médiation numérique aux médiathèques de Massy. Et c'est vrai qu'au-delà de tout ce dont on a parlé, j'ai l'impression qu'il y a aussi un enjeu qui ressort de plus en plus environnemental, en tout cas pour les IA hébergées en ligne, sur du coup la consommation d'énergie, qui est quelque chose que je ne vois pas forcément ressortir autant que ça pourrait l'être par rapport à la vraie problématique qu'on a en ce moment sur la planète, quoi, qui n'est pas en forme. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Peut-être que même la façon des outils, juste dont ils sont hébergés ou dont ils marchent, serait déjà complètement à revoir. Ce qui fait que je ne sais pas trop où me placer par rapport à l'IA et par rapport à tout ça. Je me dis que c'est peut-être mieux d'avoir une approche plus où on met vraiment les mains dans le cambouis, on télécharge le truc et c'est un bazar absolu. Mais j'ai l'impression que du coup, tout de suite, ça augmente complètement la possibilité de l'utiliser. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal d'interrogations que j'ai et qui m'inquiètent parce que j'ai l'impression qu'on les a pas autant qu'on pourrait les avoir et qu'en plus, les chiffres de consommation sont encore très, très flous et qu'on nous les donne pas. Voilà.
Très, très bonne question.
C'est un sujet de recherche. Il y a des gens qui font ça à INRIA, c'est pas moi. Vous avez une liste là, en tout petit. Mais, donc, c'est des questions qu'on se pose de comment faire ça. Mais vous voyez, le fait de miniaturiser, ça se fait, ça existe. Et oui, j'allais dire que Meta, qui a plutôt tendance à ouvrir leur modèle de langage, en fait, comme Llama, ils donnent vraiment les coûts énergétiques de tout ce qu'ils ont fait. Donc, c'est faisable. Mais vous voyez, le fait d'exécuter, c'est-à-dire de jouer avec son système, ça peut marcher sur un CPU. Bientôt, ça pourra marcher. Enfin, aujourd'hui, ça pourrait marcher sur ce smartphone. Et du coup, c'est ça que je trouve. Je suis surpris qu'on le fasse pas davantage.
En plus, il y a des notions qui arrivent parce qu'on parle aussi maintenant d'IA frugale, justement, hein, qui sont des IA qui sont pensées pour être le moins consommatrice possible d'énergie. Et effectivement, là aujourd'hui, un des gros problèmes de l'IA, c'est les data centers, parce que en fait. Quand on voit les concentrations de data centers qu'on va mettre en place. Et là, il y a un gros travail à faire, je dirais, de réflexion à essayer de centraliser, enfin de réunir des data centers et d'en faire des. Et quand on parle notamment de base de données à la française, enfin française, effectivement, là, je pense que notamment quand on va parler des collectivités qui vont installer effectivement des bases de données, notamment autour pour l'ensemble des services, que ce soit des communes ou d'aglo, il est clair que quand on parle de data center, si on met en place un data center, il ne faut pas le faire au niveau des communes, il va falloir le faire au niveau des collectivités, voire éventuellement du département, quoi. Je pense qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut réfléchir. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'IA soit comme verte, même si, je vous dis, les réflexions aujourd'hui, quand on parle d'IA frugale, on va bien vers ça, mais il y a encore des réflexions à faire, et là, là-dessus, vous avez raison. Et pour l'instant, on sait bien que ce n'est pas des choses qu'on évoque d'une façon assez ouverte, j'allais dire, mais c'est un problème sur lequel, par contre, on se penche, ça, on y travaille vraiment, d'où l'IA frugale.
Je voulais juste dire un mot, mais effectivement, c'est le fait que ChatGPT ne va pas vous dire naturellement que vous pouvez vous passer de lui. Par contre, vous pouvez lui demander qu'est-ce que je peux faire pour installer ça sur ma machine et tout, et il va vous répondre, quoi.
Merci. Ça marche bien.
Ah, j'avais pas reconnu Maïtena.
Oui, bonjour. Donc nous, on travaille chez WeTech Care, qui est une association spécialisée dans l'inclusion numérique. Donc j'aimerais répondre à votre question. Voilà. Alors je prétends pas que ma réponse soit représentative. Ça va être une réponse un peu candide. Mais déjà, au cours de cette table ronde, quand on parlait d'outils, on a beaucoup parlé d'outils américains, voire de versions payantes de ces outils américains, comme ChatGPT-4, voire d'autres. Du coup, c'est vrai qu'en tant qu'association, on ne connaît peut-être pas forcément d'outils, ou alors les outils qui sont alternatifs à ces outils-là sont moins accessibles pour nous, parce qu'on ne sait pas qu'ils existent, on ne sait pas où aller les chercher. Est-ce que je dois chercher le numéro de Mistral AI pour lui demander une version pour l'asso? Voilà. Après, pour l'outil public, Albert, pour l'instant, vous l'avez très bien dit, il est à destination des agents publics. Et donc, nous, en tant qu'association, même si on fait un travail social, on n'est pas considéré comme agent public, donc on n'a pas accès à cet outil. Et après, on pourrait nous faire notre propre version. Comme c'est des outils ouverts, et on a vu avec l'exemple en philo, on pourrait le faire aussi. Alors, chez WeTechR, on a la chance d'avoir des développeurs dans notre équipe, mais ce n'est pas forcément le cas, je pense, de toutes les associations. Donc, ça peut être une idée aussi d'avoir... une IA conversationnelle, solidaire, éthique, voilà, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais...
Alors, je sais qu'Albert, il réfléchit hein, pour voir s'il ne peut pas se reporter aussi sur les associations, mais pour l'instant, c'est qu'en termes de réflexion. Donc, je sais qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas sûr que c'est dans l'immédiat. Albert va répondre aux problèmes associatifs. Bravo.
Je vous apporte le micro. Vous voulez prendre la parole? Il est juste là. Allez-y, mettez-moi à côté de votre...
En fait, je voulais juste connaître l'adresse pour accéder à Albert.
Ah. Je te dirai ça, Christophe. C'est la DINUM qui est en charge, c'est un des laboratoires de la DINUM qui est en charge du développement. Mais voilà, on va bientôt... de toute façon, je pense que même sur Palaiso, à un moment donné, on va y être intéressé. Je parle sous le couvert d'Isabelle, mais...
Je voulais partager une réflexion. Enfin, je trouve ça donc... absolument fascinant, vraiment l'IA. Je reste, quoique moi je travaille dans un domaine de technologie, extrêmement sceptique sur le fait qu'à la fin, par rapport à l'inclusion, la balance soit positive. Je n'en sais rien, mais vraiment, rien ne prouve ni que les publics cibles vont y gagner, ni l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de la gestion des professionnels, il y a plein de temps à gagner. Et je pense du coup qu'il faut réfléchir, en particulier dans le cadre de la feuille de route, comment on réinvestit ce temps. Parce qu'en fait, le temps que certains d'entre vous vont gagner justement pour faire des synthèses plus rapidement, il ne faut pas que ce soit des économies sur des postes, mais il faut que ce soit du temps réinvesti au plus près des publics pour qu'on puisse compenser d'éventuels clivages nouveaux qui apparaîtraient. Et donc, si on peut réinvestir ce temps gagné dans du concret, je pense que ce sera pour le coup gagnant-gagnant. Wow.